Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. Notre programmation spéciale consacrée aux 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche se poursuit sur RFI. Place au débat du jour où l'on évoque eh bien, le président américain et les populistes européens.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Oui, car en Europe, les populistes de droite ont globalement salué l'élection de Donald Trump. D'une certaine manière, c'est l'un des leurs qui revenait au pouvoir. Mais après 100 jours, est-ce que le ton n'aurait pas changé? Les thématiques communes poussées à l'extrême, le protectionnisme en tête, entraînent un tel bouleversement mondial. Est-ce que cela peut se retourner contre les dirigeants populistes? Notre question ce soir, Donald Trump constitue-t-il toujours un modèle pour les populistes européens ou est-ce que de plus en plus il est l'ami gênant? Dès lors, quelle attitude adopter à son égard dans un objectif de quête du pouvoir? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités. À mes côtés en studio, Catherine Fieschi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue au centre Robert Schuman de l'Institut européen de Florence, spécialiste des populismes. Face à vous, Jean-Yves Camus, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès. Bon. Et notre troisième invité en ligne avec nous, Marc Lazare, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur émérite à Sciences Po, professeur de relations franco-italiennes pour l'Europe à l'Université Louise de Rome, spécialiste des populismes européens. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Catherine Fieschi, première question, que sait-on, 100 jours après le début du mandat de Donald Trump, du ressenti des populistes européens? Comment est-ce qu'ils vivent ce début de mandat?
Alors, je crois qu'ils se gardent bien de nous dire, si on parle des dirigeants, n'est-ce pas? Je crois que ceux-ci se gardent bien de nous dire exactement ce qu'ils ressentent vis-à-vis de Donald Trump. Certains d'entre eux étaient parfaitement à l'aise avec la présidence Biden. Évidemment, comme vous le disiez plus tôt, c'est vrai que pour eux, c'était un peu le retour de l'un des leurs. Mmh. En même temps, ça allait leur poser forcément certains problèmes. Pour certains comme Marine Le Pen, par exemple, bon, la relation aux États-Unis n'a jamais été simple. Ouais. On sait aussi que par exemple, Giorgia Meloni avait une très bonne relation avec Joe Biden et qu'elle allait se retrouver face à Trump qui, malgré tout, avait déjà dit qu'il allait imposer des tarifs et l'Italie est l'un des pays dont la balance est excédentaire. Donc, elle risque de pâtir de ces tarifs. Donc, je pense qu'ils sont pris un petit peu entre le marteau et l'enclume, mais c'est ce qui arrive lorsqu'on est nationaliste et que d'autres nationalistes veulent imposer cette même idéologie.
Jean-Yves Camus, est-ce que vous diriez qu'il y a un décalage entre les attentes, même si effectivement, Catherine Fieschi le dit, il y avait malgré tout des interrogations, mais entre les attentes et ce qui émerge aujourd'hui, 100 jours après le début du mandat de Donald Trump, pour les populistes européens?
Non, je crois effectivement que des attentes, il y en avait, mais plutôt sur le style, puisqu'en fait, ces gens étant effectivement, comme cela vient d'être dit, des nationalistes, ils n'avaient guère d'illusions sur le fait, et Marine Le Pen l'a formulé de la sorte, qu'à un moment donné, il se peut que vous soyez un bon dirigeant pour votre pays dont vous mettez en avant l'intérêt national, mais que cet intérêt national américain ne colle pas nécessairement avec vos desiderata d'hommes ou de femmes politiques françaises. On va prendre quelques exemples. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, lorsque les droits de douane américains augmentent et impactent des filières paysanne, la viticulture, les métiers du luxe, etc., que courtisent Marine Le Pen et Jordan Bardella. Ben, à un moment donné, quand vous allez en circonscription, vous êtes bien obligé de dire « Désolé, mais la mesure qu'a prise Donald Trump, elle est peut-être bonne pour les Américains, mais elle ne colle pas ici. » Moi, ce qui me frappe par ailleurs, c'est qu'en fait, il y a deux personnages qui retiennent l'attention de nos populistes depuis la prise de fonction de Donald Trump. Il y a Donald Trump lui-même, dont personne ne pense qu'il est un idéologue, et le vice-président, J.D. Vance, qui, lui, est quelqu'un de beaucoup plus structuré, idéologiquement, avec autour de lui un aéropage de politistes, de constitutionnalistes, des fois assez brillants, et qui connaissent l'Europe, qui s'y rendent, qui font infuser notamment leurs idées du côté de Budapest, dans un certain nombre de think tanks très proches de M. Orban. Et compte tenu de l'âge de Donald Trump et de ses capacités à, comment dire, des fois donner raison à quelqu'un de son entourage un peu contre toute attente, celui qui pourrait influencer un certain nombre de décisions, voire, c'est trop tôt pour le dire, lui succéder et prolonger le pouvoir républicain aux États-Unis, c'est quelqu'un qui a une vision très particulière de l'Europe et une vision très particulière de la démocratie américaine.
Et est-ce que ça peut servir les populistes européens, cette diffusion de l'idéologie MAGA, finalement, Make America Great Again, selon J.D. Vance?
Non, pas de l'idéologie MAGA.
Alors,
précisément.
L'idéologie populiste, au sens large du terme?
Non plus. Si on prend par exemple Patrick Deneen, qui est un politiste américain qui sert un petit peu de cerveau bis à M. Vance. C'est un homme qui relit Tocqueville, ce qui rend très difficile le fait de le catégoriser à l'extrême droite, et qui écrit. Tocqueville avait bien vu qu'à un moment donné, la démocratie est certes un régime tout à fait souhaitable, mais qu'elle peut aboutir à une tyrannie de la majorité. Et quand il y a tyrannie de la majorité, l'État devient tentaculaire. Cela devient un État qui, en fait, infantilise les individus et dont il faut, pour que chacun réussisse à trouver sa place dans la société, dont il faut s'affranchir. Alors, on voit bien effectivement quel est l'impact en matière de démantèlement d'une partie de l'État. Et puis, il y a aussi quelque chose de très intéressant, c'est ce constitutionnaliste qui infuse beaucoup chez les républicains, Adrian Vermeul, qui, lui, part d'une relecture de la Constitution américaine. Vermeul dit, en fait, la Constitution américaine, pour les conservateurs standards, pour les républicains d'antan, c'est un texte qui est figé une fois pour toutes, qui est écrit, gravé dans le marbre depuis le moment de la déclaration d'indépendance. Or, il est daté. Il est daté, il est d'un contexte. Et il faut, à un moment donné, le revisiter dans un sens alors qui est un petit peu nébuleux, mais qui est plutôt inspiré par un catholicisme très très traditionnel, qui est au fond l'idéologie de la bonne gouvernance et du bien commun. C'est-à-dire que l'État se mêle du moins de choses possibles, mais il essaye simplement d'établir un espèce de code de conduite morale, qui est là aussi, on voit les implications que ça peut avoir, qui définit de grands axes sociétaux, sur le mariage, l'importance de la famille, évidemment l'avortement, la discrimination positive, etc., etc., et qui, en fait, rebâtit un contrat constitutionnel nouveau entre les dirigeants et le peuple américain.
Alors, justement, je voulais faire le lien vers le peuple, les électeurs, parce que vous l'avez dit, Catherine Fieschi, on a parlé des dirigeants populistes d'abord. Et la question qu'on pose, c'est est-ce que Donald Trump constitue toujours un modèle pour les populistes? Mais évidemment, les populistes, ils seront au pouvoir si les électeurs votent pour eux. Est-ce que cette diffusion de l'idéologie populiste, suite à l'élection, à la réélection de Donald Trump, aux 100 jours de Donald Trump, quel impact ça peut avoir sur les électeurs?
Alors, je pense que sur les électeurs, évidemment, ils se sentent du côté des gagnants, ils se sentent du côté des puissants. Eux, ils vont surfer beaucoup plus facilement, je pense, sur cette vague idéologiquement que peut-être les dirigeants ne vont le faire. C'est en quelque sorte une reprise du pouvoir par le bon sens. C'est une réaction contre un nombre de thèmes qui rassemblent les électeurs populistes et les électeurs d'extrême droite, que ce soit ce qu'ils conçoivent entre guillemets comme le wokisme, que ce soit la politique climatique, que ce soit la régulation en fait sous toutes ses formes, et évidemment l'immigration. Donc je pense que pour les électeurs, il y a ce sentiment d'être en quelque sorte poussé dans ce moment de l'histoire, d'être du côté des vainqueurs, du côté des gagnants, et que ça c'est important. Je voulais juste rajouter une petite chose sur les dirigeants, sur les partis eux-mêmes. Ce qui est intéressant, c'est que certains partis sont même divisés en interne. Oui. Donc, et ça, c'est important de le souligner. Un parti comme l'AFD, en particulier en Allemagne, vous avez Alice Weidel qui déclare que finalement Donald Trump se comporte de façon stupide, que ses tarifs sont stupides, et puis elle a son co-dirigeant Tino Chrupalla qui lui dit non, mais finalement c'est tactique. Au sein de la coalition en Italie, on a un Salvini qui est plutôt compréhensif vis-à-vis des tarifs, mais peut-être aussi des droits de douane, pardon, mais peut-être aussi parce que ça met en difficulté Meloni. Donc, il faut bien se dire
au sein du Rassemblement national
au sein du Rassemblement national aussi. Donc, est-ce que ces divergences sont en quelque sorte un petit peu tactiques? Parce qu'on parle de partis qui, quand même, depuis quelques années, font un espèce de grand écart pour essayer d'aller chercher un maximum d'électeurs et donc, finalement, une façon d'affronter les difficultés que peut poser Trump, c'est de finalement se diviser en interne et on en met une couche pour certains électeurs et une couche pour les autres. Ou est-ce que véritablement il y a des divergences? Je pense que les deux sont possibles. Mais c'est important de garder en tête qu'ils sont aussi divisés de façon interne.
Marc Lazare, il y a deux points sur lesquels je souhaite vous faire réagir par rapport à ce que disait Catherine Fieschi quand on évoquait finalement les idées dans lesquelles les électeurs populistes européens se retrouvent finalement, qui sont reprises lors des 100 jours de Donald Trump. Est-ce que ces idées, cette idéologie portée par l'anti-immigration, l'anti-wokisme, est-ce que ça c'est plus fort pour ces électeurs ou est-ce qu'ils retiennent d'abord le chaos créé par le bouleversement mondial du début de mandat de Donald Trump et à quel point est-ce que, et c'était le deuxième point qu'évoquait Catherine Fieschi, la position à l'égard de, à adopter finalement à l'égard de Donald Trump, aujourd'hui elle fissure et quelles conséquences les partis, on a évoqué l'Italie, on a évoqué le Rassemblement National.
Alors, écoutez, du côté des électeurs, je pense qu'il faut prendre en considération un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites, notamment récemment en France. Puis il y a une très intéressante enquête qui a été publiée par l'ISPI en Italie, c'est-à-dire un institut de politique internationale qui est à Milan, qui montre quand même que dans les deux pays, plus fortement encore en France qu'en Italie pour des raisons historiques, il y a un anti-américanisme qui est en train de ressurgir. Et y compris, beaucoup plus nettement dans l'électorat, disons, pour aller vite, centriste et de gauche, bien sûr, mais aussi dans une partie de l'électorat de ses propres formations. Donc c'est un élément, d'après moi, que prennent en considération les dirigeants, y compris ceux, et je vais y venir, comme Giorgia Meloni. Et là, moi, j'ai un avis un peu divergent avec ce qui a été dit. Je rejoins Jean-Yves Camus en disant que l'homme clé du point de vue de l'administration américaine, c'est Vance, bien sûr. Et je rappelle que Giorgia Meloni a dit, après son discours à Munich, après le discours du vice-président, qu'elle partageait une grande partie de ce qu'avait dit Vance, qu'elle l'a accueilli récemment à Rome avec beaucoup d'effusion, qu'elle s'est toujours dit très proche de Trump et de Musk. Et il y a une proximité idéologique et politique exactement sur les thématiques qu'a indiqué Jean-Yves Camus, notamment la défense de la famille traditionnelle, la religion chrétienne, l'avortement, même si elle n'a pas renoncé, elle a renoncé à abolir la loi qui favorise l'avortement, mais elle fait tout pour limiter au minimum la possibilité pour les femmes d'interrompre leur grossesse. Donc, il y a une proximité idéologique et politique très forte. Et puis, elle est à la tête d'un pays avec un taux de popularité qui reste très important. Et puis, l'autre dirigeant dont on n'a pas encore... Si, ça a été évoqué à un moment donné, c'est Orban. Et Orban, non seulement a servi de modèle à l'Heritage Foundation au moment d'avant l'élection américaine, la Hongrie est considérée comme un modèle par une grande partie de cette équipe autour de la coalition autour de Trump. Et Orban est tout à fait d'accord, encore plus sur les positions pro-russe qui a pris à un moment donné, ça semble changer en ce moment, Trump sur la guerre en Ukraine. Pour en venir juste à Giorgia Meloni...
Finalement, ce qui
Meloni,
diffère, pardon, c'est les différences entre les populismes européens, c'est-à-dire que le populisme de Marine Le Pen n'est pas celui de Viktor Orban.
Exactement, et justement parce que Marine Le Pen n'a jamais beaucoup repris ces thématiques sur la défense de la famille traditionnelle, sur la religion. C'était le cas plutôt de son père, elle s'en est différenciée. Parfois, elle se réclame de la laïcité de la République, donc elle est en porte-à-faux. Encore une fois, elle doit tenir compte du sentiment anti-américain, et évidemment, ça a été dit, des conséquences qu'auraient les tarifs, la mise en place des droits de douane, et c'est la même même chose pour Giorgia Meloni. Donc voilà, il y a un jeu d'équilibre important. Et vous avez abordé un point, je le dis juste, je termine par rapport à l'Italie, sinon on ne comprend rien. Bien sûr, il y a la proximité politico-idéologique de Giorgia Meloni avec cette administration, avec les limites, encore une fois, sur la question des droits de douane, sur la guerre en Ukraine. Ça l'a beaucoup surprise, Giorgia Meloni, qui s'est alignée derrière Zelensky. Donc elle est un peu porte-à-faux. Maintenant, elle dit, mais ce que propose Trump, c'est bien, mais on sent qu'elle est mal à l'aise. Mais c'est à prendre en considération, à mettre en relation, pardon, avec un autre élément qu'on oublie toujours en France, c'est que la politique étrangère italienne depuis l'après-Seconde Guerre mondiale est à la fois pro-atlantique et pro-européenne. Et par conséquent, elle s'est très bien entendue avec Biden, précisément pour cette raison, et elle s'entendra toujours avec quelle que soit la personne à Washington, parce que l'Italie est pro-atlantique, l'Italie a des bases de l'OTAN sur son territoire, l'Italie est un endroit et une péninsule stratégique dans l'espace méditerranéen, et donc, quoi qu'il en soit, elle ou son successeur fera tout pour rester aux côtés de Washington, quel que soit l'occupant de la Maison-Blanche.
Jean-Yves Camus, l'Italie, c'est un bon exemple, parce que Giorgia Meloni, la première ministre, effectivement, il y a cette proximité idéologique qu'évoquait Marc Lazare avec Donald Trump. À côté de ça, il y a deux Italiens sur trois qui sont mécontents, parce qu'effectivement, la politique commerciale, elle frappe durement l'Italie, des mesures décidées par le président américain. Donc, est-ce que c'est un boulet pour Giorgia Meloni d'afficher un soutien? Est-ce qu'elle doit se détourner de Donald Trump? Et ça montre tous les paradoxes face auxquels se trouvent aujourd'hui les populistes européens. Il y a cette guerre commerciale qui définit l'ultra-protectionnisme, donc une valeur importante pour les populistes, mais en même temps, guerre commerciale veut dire inflation et conséquences importantes. Par exemple, en France, comment est-ce que les électeurs du Rassemblement national réagissent à la guerre commerciale, aux tarifs douaniers qui provoquent une inflation dans leur pays, alors que le pouvoir d'achat, on le sait, c'est un thème extrêmement important.
Vous savez, les électeurs des partis de droite radicale en Europe, du moins en Europe de l'Ouest et en France, comme dans un certain nombre d'autres pays, ce qu'ils ont vu dans Trump... j'essaye de le dire d'une manière décente, c'est le bras d'honneur fait au système. Ça ne va guère plus loin, au fond. C'est l'homme qui déteste les élites, mais c'est aussi, en même temps, le self-made man qui essaye, et ça prend beaucoup en France, d'expliquer que finalement l'État, c'est une vaste bureaucratie de feignants, et que la meilleure manière de le gouverner, c'est de mettre à sa tête quelqu'un qui utilise pour l'État les méthodes de management qui ont fait sa fortune à la tête de son entreprise. Mais après, la réflexion des électeurs du Rassemblement national sur Donald Trump, qui il est, ce qu'il pense, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. C'est principalement le pied de nez au système qui retient l'attention. Pour le reste, J.D. Vance, n'en parlons pas. Chez les militants du Rassemblement National, il n'existe pas, mis à part peut-être chez certains idéologues au sommet du parti.
Mais le RN, qui est dans une quête de notabilisation, vous qui êtes expert de l'extrême droite française, ça montre que le populisme ne pourra jamais être notabilisé. Est-ce que ce n'est pas aussi les limites, encore une fois, de l'avenir du RN en France, qui est démontré à travers la politique de Trump?
Vous savez, il y a toute une partie de la droite radicale française qui commence à s'interroger sur les limites de la stratégie de dédiabolisation. Jean-Yves Le Gallou, qui a été pendant longtemps un des cadres supérieurs de ce parti, qui en a été député européen et qui est l'inventeur du concept de préférence nationale, vient d'écrire ses mémoires. 30 ans de combat politique, donc, et il en sort. La conclusion suivante, finalement, le RN poursuit une politique de dédiabolisation dont il ne sortira jamais gagnant, parce que dans le processus de dédiabolisation, c'est toujours celui qui diabolise qui met le marqueur de la diabolisation. Vous pouvez vous débattre autant que vous voulez pour vous débarrasser de l'espèce de camisole de diabolisation que vos adversaires on collait sur vous, vous n'arriverez jamais à y échapper. Donc finalement, à quoi bon? C'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est pour proposer, dans quelques années, avec encore plus de dédiabolisation, un produit qui serait un ersatz de la droite des Républicains, eh bien à un moment donné, l'électorat décrochera. Donc il faut rediaboliser. Marine Le Pen ne le fera pas. Mais en ce moment, à l'intérieur de l'AFD, il y a une discussion très sévère en interne, avec un Timo Chrupalla qui souhaite, au Bundestag même, au cœur de la démocratie allemande, faire du Trump, sauf que c'est dans le contexte allemand et qu'historiquement ça ne veut pas dire complètement la même chose, en brisant les codes et en lançant un certain nombre de phrases qui sont destinées à briser des tabous, y compris des tabous historiques par rapport au passé allemand. Objectif, se distinguer et cimenter son électorat, non plus sur une simple europhobie ou une simple volonté de lutter contre les élites, mais sur des vrais marqueurs idéologiques. Mmh. Alors qu'Alice Weidel est beaucoup plus souple. Hein. C'est quelqu'un qui, par sa carrière, par la profession qu'elle a exercée, est quelqu'un d'une libérale bon teint sur les valeurs économiques, qui, par ailleurs, est évidemment quelqu'un de droite radicale sur le reste. Mmh.
D'autant Catherine plus... Fieschi, rapidement, avant de passer à la seconde partie du débat, mais je trouve que c'est intéressant justement, parce qu'on pose la question, est-ce que Donald Trump est toujours un modèle pour les populistes européens? Est-ce qu'il ne montre pas les limites, Donald Trump, des populistes et de leur quête de pouvoir en Europe aujourd'hui?
Alors, oui, enfin, je pense que comme nous l'avons déjà évoqué, déjà, un modèle de populisme américain, c'est compliqué pour les Européens. Et d'ailleurs, comme on l'a dit, c'est le modèle européen à la Orban qui a effectivement plus influencé les Trumpistes. Donc, il montre une certaine limite, des certaines limites. Mais je pense aussi que ces réévaluations qu'évoquait Jean-Yves Camus, se dédiaboliser, continuer ou se rediaboliser, il force ses partis vraiment à se confronter aux limites qu'il incarne. Et je pense qu'ils sont en train effectivement, de refaire un petit peu leurs calculs.
Un examen de conscience, d'une certaine
manière. Un examen de conscience, un examen de stratégie. Le cas de l'AFD, c'est intéressant parce que l'AFD, elle, c'est toujours... Elle n'a été que diabolisation. Ils sont partis finalement d'un parti avec des économistes intellectuels anti-eurozone et critiques de l'Europe du Sud pour arriver à un parti infiniment plus radical. Ils ont continué sur leur lancée. D'autres, comme le Rassemblement National, effectivement, sont en train de se poser des questions. Et au sein des Frères d'Italie, ces questions se posent constamment. Mais je crois qu'il les force à se confronter à ses limites, mais ils sont en train d'y répondre.
Donald Trump constitue-t-il toujours un modèle pour les populistes européens? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, dans le cadre de notre journée spéciale, à l'occasion des 100 jours de Donald Trump à la Maison-Blanche. Mes trois invités, Catherine Fieschi, que l'on entendait, qui est politologue au centre Robert Schuman de l'Institut européen de Florence, spécialiste des populismes, Jean-Yves Camus, politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités politiques à la Fondation Jean Jaurès, et Marc Lazare, professeur émérite à Sciences Po et professeur de relations franco-italiennes pour l'Europe à l'Université Louise de Rome. Spécialiste des populismes européens. Marc Lazare, je vais vous donner à présent la parole, mais dans la continuité de ce que nous disait Catherine Fieschi, c'est intéressant, parce que maintenant la question c'est que doivent faire les populistes européens, comment ils doivent se placer face à Donald Trump. Quand Catherine Fieschi évoquait un possible changement de stratégie, est-ce que c'est nécessaire parce qu'aujourd'hui le mandat de Donald Trump est en train de plomber l'ambition des populistes européens, et il y a des voix qui émergent, mais est-ce qu'il y a une attitude à adopter ouvertement? Je vais juste, avant de vous entendre, citer le député de la Somme du Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy, qui disait « Donald Trump met le populisme sous une lumière négative. J'ai toujours pensé qu'il était toxique et qu'il fallait prendre nos distances, expliquer en quoi nous sommes différents, mais il semble minoritaire sur cette ligne au sein du RN. » Et ça montre toute la complexité du sujet.
Effectivement, c'est complexe. Plomber, c'est peut-être un verbe un peu trop fort. Ce que je crois, c'est qu'il faut différencier deux types de situations. La situation des partis nationaux populistes, comme certains d'entre nous les appelons, qui veulent accéder au pouvoir et qui, là, sont confrontés à une stratégie, enfin, à un dilemme stratégique. Mmh. Est-ce qu'il faut, effectivement, et ça a été très bien résumé, est-ce qu'il faut être dans une stratégie, d'affrontement à la Trump, de clivage, de polarisation, ou est-ce qu'il faut une stratégie plus souple pour essayer tenter d'attirer de nouveaux électeurs et essayer de l'emporter seul ou en coalition. Donc ça, effectivement, ces formations, l'expérience américaine suppose de résoudre ce dilemme. Ça me semble être une autre type de problématique pour les formations comme celle de Orban en Hongrie et celle de Giorgia Meloni de sa coalition en Italie. Parce que justement, ils sont au pouvoir et dans le cas italien, alors c'est autre chose hein, ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe centrale ou Europe orientale, mais en tout cas, pour l'exemple italien, vous l'avez dit, c'est un exemple important, c'est quand même le pays fondateur de l'Union européenne, c'est la deuxième puissance industrielle. Là, c'est autre chose, d'autant plus que Giorgia Meloni bénéficie de l'absence d'une opposition, plus exactement d'une opposition divisée, donc elle aborde plus sereinement cette question, et pour le moment, elle, son objectif est très clair, c'est pas la question qu'on se pose, la polarisation ou modération, c'est comment faire en sorte d'être le go-between, l'intermédiaire entre les États-Unis et l'Europe pour avoir encore plus de poids en Europe, pour essayer de sceller son accord avec le Parti populaire européen et de faire triompher ces deux grandes priorités qui sont la question de l'immigration et l'annulation, ou en tout cas le recul complet, la renonciation au pacte vert. Et c'est quelque chose sur lequel elle avance résolument. Après, elle est effectivement, son dilemme à elle, c'est est-ce qu'on peut concilier le pro-atlantisme avec cette administration-là et rester en Europe tout en essayant de changer l'Europe de l'intérieur. Ça, c'est le vrai dilemme pour Giorgia Meloni. C'est pas tellement la question polarisation ou souplesse.
Jean-Yves Calmus, puisqu'on évoque finalement des réalités vraiment diverses au sein des populistes européens, et on n'a pas parlé des populistes hors Europe, des Javier Milei, président argentin par exemple, est-ce que le mandat de Donald Trump peut faire s'effondrer ou du moins fissurer les projets populistes européens, l'international populisme?
Alors, je le redis, il n'y a pas d'international populiste.
Le projet de...
Il n'y a même pas de projet. Il y a en fait une réalité institutionnelle qui est celle d'un Parlement européen qui, de par son règlement intérieur, offre une véritable manne aux gens qui se constituent en groupe. Ce sont des collaborateurs, ce sont des bureaux, ce sont des budgets, ce sont des voyages, ce sont toutes les facilités que le Parlement européen offre à ceux qui ont la sagesse de se constituer en groupe plutôt que de siéger avec les non-inscrits. Et de fait, au début de chaque session, on voit bien que il y a des efforts, il y a des tractations pour arriver à former un groupe avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord. Mais c'est la logique institutionnelle de l'Union. C'est la logique institutionnelle du PE qui fait à un moment donné que émerge quelque chose autour du groupe Patriote pour l'Europe qui semble être une internationale en devenir. Mais en fait, quand vous regardez en dessous de la com, vous voyez que ça se passe pas tout à fait comme ça. Le Parti républicain américain, par exemple, poursuit sa propre politique de constitution d'alliance à l'étranger par le biais de ses conférences CPAC, qui étaient au départ des conférences de conservateurs américains aux États-Unis et qui ont, depuis quelques années, fait des petits, si j'ose dire, avec une conférence CPAC européenne qui va se tenir en Hongrie au mois de mai, une conférence centro-latino-américaine.
Ça montre l'influence,
autour
encore
de
une fois, vous évoquiez l'idéologie de Jay Davis, mais ça montre quelle est l'influence qu'elle
a. C'est sous contrôle américain, ça.
C'est sous contrôle américain, mais même le CPAC qui s'est tenu aux États-Unis, tous les dirigeants du RN, et, hormis Marine Le Pen, étaient présents.
Oui, enfin, ils viennent parce que ça donne lieu à un certain nombre d'articles, à une couverture médiatique. Mais en fait, ils sont comme des poules qui ont trouvé un couteau dans la conférence CPAC, dont ils ne comprennent pas les trois quarts de ce qui s'y raconte. Il y a une conférence donc centro-latino-américaine autour de Bolsonaro fils et de Milei, avec un poisson pilote en Europe qui est Vox, les Espagnols de Vox, qui disposent d'une fondation et qui, eux, se centrent vraiment sur l'univers, c'est-à-dire de l'hispanité. Et puis vous avez ensuite des petites CPAC japonaises, australiennes, etc. Et tout ça n'agit pas forcément de concert. Et puis il y a les tentatives de Steve Bannon, qui j'allais dire, était entrepreneur pour son propre compte.
Catherine Fieschi, il nous reste 15 secondes, mais oui, on vous écoute.
Pardon, j'allais juste rajouter que c'est vrai que ces partis sont opportunistes par rapport à l'Europe, mais ils sont aussi idéologiquement soudés dans leur détestation de l'Union européenne telle qu'elle existe à l'heure actuelle. Et ça, c'est quand même quelque chose qui ne leur donne pas une véritable cohérence,
non.
Mais quand même. C'est un socle.
Et ça peut être aussi, effectivement, une réponse à l'ultra-protectionnisme aussi, un écho en tout cas à l'ultra-protectionnisme de Donald Trump. La traduction en Europe, il faut se détacher de Bruxelles. Donc Donald Trump constitue-t-il toujours un modèle pour les populistes européens, mais pas sûr, mais compliqué d'y répondre parce qu'évidemment, le mot c'est la diversité, évidemment, entre les situations. Merci beaucoup à vous trois, Catherine Fieschi, Jean-Yves Camus et Marc Lazare. Et merci à Arnold Assewa qui était à la préparation de ce débat du jour. Ne bougez pas, dans 30 secondes, c'est le grand journal du soir sur RFI.